Cyril Médard de Chardon, bonjour.
Bonjour René.
Félicitations. D'abord, tu viens de soutenir ta thèse de doctorat qui porte le titre « Geographical Analysis of Bicycle Sharing Systems ». Ça s'est bien passé ?
Très bien, excellent.
Le partage ou la location de vélo est aussi ce soir le sujet de notre émission Humanities Talk, le rendez-vous régulier au laboratoire des sciences humaines. Et ton sujet de thèse me semble très original, mais également une réponse très actuelle au problème de la mobilité urbaine. Toi-même, tu utilises la bicyclette ?
Donc ça fait 2 ans que je ne suis plus au Luxembourg, mais je continue mon travail de l'Angleterre. Mais quand j'étais ici, j'étais membre, bien sûr, du système de vélo de JCDECO.
Ça, c'est le système de H ou...
De Luxembourg-Ville.
De Luxembourg-Ville. Ah, DECO, oui.
JCDECO, pardon, oui. Et c'était très pratique. Mais oui.
Et l'intérêt pour le sujet, il vient de cette pratique ou comment ça s'est passé ?
Pardon,
c'est... L'intérêt pour le sujet de thèse, il vient de cette
alors,
pratique.
Alors, oui. En fait, donc voilà, j'étais utilisateur et j'ai commencé à me demander comment les stations étaient localisées. Et comme je suis géographe et je fais des analyses spatiales, je me suis demandé si l'emplacement des stations n'était pas plus déterminé par la visibilité des publicités plutôt que comment les gens pourraient s'en servir de la manière la plus commode. Et donc, j'ai fait une demande au FNR, et avec toutes sortes de recherches sur le succès, le but des VLS. Et après, c'est parti un peu à travers, parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment regardé cette question-là, mais d'autres questions qui étaient très intéressantes.
La différence entre l'anglais « sharing », « partage » et le français « location » montre déjà qu'il y a différents systèmes de sharing. Y a-t-il eu un modèle pionnier et où est-ce que ça a commencé en fait ?
Alors, en anglais on dit bicycle sharing system, il y a aussi cycle hire en français, vélo en libre service et l'expression que vous avez utilisée aussi.
Location.
Location, oui. Et, on peut peut-être confondre avec une service de location de vélo où on prend un vélo pendant une journée. Donc j'utiliserai le mot vélo en libre service en français. Mais le premier système était à Amsterdam en 1965.
Déjà.
Voilà. Et c'était des gens qui ont partagé leur vélo. Ils les ont peints blancs et ils les ont laissés gratuitement, sans attache, dans les rues. C'était un mouvement politique, un peu alternatif, qui n'a pas duré très longtemps. Mais c'était vraiment une provocation contre la consommation et aussi la pollution urbaine à cause des voitures qui explosaient dans le centre urbain.
Ta thèse ne porte pas seulement sur le Luxembourg, mais tu compares ce cas à celui de différentes villes européennes et nord-américaines. Comment tu as fait pour rassembler toutes ces données ?
Oui, alors il y a certains opérateurs, comme des compagnies comme JCDECO ou en Amérique du Nord, Alta Bikeshare ou Motivate, qui s'appelle maintenant, qui donnent les données, les trajets, surtout en Amérique du Nord. JCDECO n'est pas trop intéressé à partager ces données-là. Et en fait, ça, c'est le problème. Parce que dans ma recherche, je regarde le niveau d'utilisation de ces systèmes. Et sans les données, c'est difficile. Et donc, j'ai formalisé un peu des relations entre les données privées, qui ne sont pas très accessibles, et les données publiques. Donc, si vous vous servez d'une application ou du site web pour un vélo en libre-service, vous verrez l'emplacement et le nombre de vélos et d'espaces à chaque station. Et donc ça, c'est public. Et à partir des cas que j'avais, je pouvais un peu tracer la liaison entre les deux. Et une fois que j'ai ces cartes publiques, je peux estimer le nombre de trajets. Et donc ça a vraiment permis d'évaluer les systèmes grâce à ça.
À côté des données quantitatives, il y a aussi des case studies.
Oui. Alors, il y a plusieurs aspects de ma recherche, mais j'ai regardé Boston, New York, Luxembourg, Vienne, Londres, San Francisco, Chicago, Minneapolis. D'une manière très approfondie. Et après, j'ai fait d'autres analyses sur 75 autres villes, enfin, dans lesquelles celle que je viens de décrire font partie. Voilà, mais ça c'était surtout en Europe et Amérique du Nord. Donc j'ai essayé de faire tous les systèmes en Europe et Amérique du Nord pour comparer et voir quel taux d'utilisation ils ont.
Il n'y a pas, si j'ai bien vu, d'interview avec des usagers.
Il n'y a pas, non, ça c'est vrai. Mais avec les opérateurs, avec les municipalités et avec des organisations non gouvernementales qui encouragent le cyclisme.
À Luxembourg-Ville, lors du lancement de Vélo, il y a eu beaucoup de critiques quant au choix d'un gestionnaire privé et beaucoup de pessimisme aussi quant au succès du modèle. Traitant d'abord le premier point, est-ce que c'est un bon choix de laisser ce marché au secteur privé ou est-ce que c'est mieux de mettre en place un système public ou un système géré par une entreprise d'économie sociale comme un HECH?
Alors, si on retourne à la question de le premier système de VLS, de vélo en libre service, on voit que c'était vraiment anti-consommation et une vraie participation publique où on partage les bénéfices. Et depuis ce temps-là, ça a changé où ça fait l'inverse, ça encourage la consommation. Donc il y a des publicités, quelquefois pour des voitures, directement à côté des vélos, et d'autres consommations, le plus nouveau gadget, des trucs comme ça. Voilà, donc ça.
Mais est-ce que c'est fonctionnel, disons, de le laisser à des entreprises privées?
Alors, il y a l'autre aspect aussi privé. Donc, je reviens à votre question, où les bénéfices sont privés aussi. Est-ce que c'est fonctionnel? Alors, dans mes analyses, ce que j'ai trouvé, c'est que l'opérateur a énormément de pouvoir pour déterminer qui va se servir des vélos par rapport à où. Ou quand il rééquilibre. Et quand je dis rééquilibre, je veux dire déplacement des vélos là où il n'y en a pas ou là où il y en a trop et ils enlèvent pour faire de la place. Bon, je peux vous dire, pardon René, je peux te dire qu'au Luxembourg, le système, par mes comparaisons, a peu d'utilisation, a peu de trajets par vélo. Donc on parle de trajets par vélo parce que ça nous permet de comparer les systèmes de différentes tailles. Et Luxembourg, si on regarde sur une année en moyenne, donc pendant l'hiver où il y a clairement moins de trajets, on voit quand même qu'ils ont moins de un trajet par jour par vélo. Donc ça n'a pas été beaucoup utilisé. Mmh. Alors maintenant, est-ce que c'est une question de... ça a été mal géré? Je ne pense pas.
On voit quand même qu'il y a un succès incontestable. On voit beaucoup de vélos avec H en ville.
On en voit, mais je ne suis pas totalement d'accord que ce soit incontestable, parce que ça a été... on encourage la consommation. Je veux dire, le but d'un VLS, c'était quoi? C'était, on a été promis quoi? Est-ce qu'on a été promis des réductions de CO2, des réductions de congestion, augmenter les cyclistes Et en fait, en résultat, est-ce que ça a fait ça? Est-ce que ça a vraiment augmenté les cyclistes? Peut-être un peu, mais quel est l'effet des publicités? C'est pas clair que ça a été un succès incontournable, je dirais.
Tu avais déjà parlé du rebalancing ou du rééquilibrage. Oui. Il se pose aussi un problème écologique là-dedans parce que les firmes doivent tout le temps transporter des vélos à des stations.
Tout à fait. Donc, je peux pas te dire pour le Luxembourg si les émissions des camions qui font le rééquilibrage sont plus grandes que les réductions grâce aux vélos avec un H. Que je sache, il n'y a pas eu de statistique qui dit combien de personnes ont abandonné leur voiture pour faire des trajets en vélo. Mais fondamentalement, s'il n'y a qu'un trajet, et même pas un trajet par jour par vélo, les effets ne vont pas être très très grands. Et probablement, les camions peuvent avoir plus d'impact négatif que les bénéfices en réduction. Un cas connu, c'est à Londres, où là, ils ont bien calculé les émissions par les camions, et ils ont comparé ça aux réductions des cyclistes qui ont abandonné leur voiture, et ils ont bien vu que c'était clair qu'il y avait un net augmentation de CO2. Bon, il y a d'autres cas en côte est des États-Unis où ils ont montré qu'il y avait une petite réduction, mais c'est pas... c'est pas aussi grand que qu'on nous répète.
Mmh. Un autre problème que moi je trouve qui n'est pas résolu, surtout au Luxembourg, c'est l'esthétique. Ça fait quand même, ça prend beaucoup de place dans le dans l'espace urbain, les stations et les surfaces de publicité.
Oui, oui. Et au début, il y avait eu des problèmes avec le placement des panneaux publicitaires où les gens, les voitures n'arrivaient pas à bien voir, je pense.
Est-ce que c'est seulement à Luxembourg ce problème ou
C'est toujours un peu la même technologie, les mêmes systèmes. Gécideco a le même système à Namur, Bruxelles, Lyon, Paris, beaucoup d'autres villes. Mmh. Et c'est toujours à peu près le même setup avec les panneaux publicitaires. Oui, et ça prend beaucoup de place pour les piétons. Pour les utilisateurs, ça vaut le coup peut-être, mais il faut qu'on regarde aussi qui sont les utilisateurs de ces systèmes. Et il y a une grande portion, très grande portion de la population qui ne se sert pas de ces systèmes. Et ce qui se passe, c'est une privatisation ou une consommation d'espace public pour une petite partie du public.
Nous allons approfondir ce sujet après la pause. Pour notre accompagnement musical, j'ai choisi des classiques du sujet. Voici Bicycle Race de Queen.
Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is
Vous êtes toujours branché sur la fréquence 100,7 et avec l'invité de l'émission Humanities Talk d'aujourd'hui, Cyril Médard de Chardon, je parle de sa recherche sur les systèmes de location de vélos ou de systèmes en libre-service, comme il faudrait...
Vélo plutôt, en libre-service, oui.
Il faudrait dire, oui. Alors, on vient déjà de parler un petit peu de certains aspects plus précis, notamment la question si l'utilisation des vélos ou des systèmes de sharing mène à la longue faire l'achat de bicyclettes privées ou s'il suscite une utilisation renforcée du vélo. Est-ce qu'on peut mesurer ça?
On peut. Que je sache, ça n'a pas été fait, surtout au Luxembourg. C'est difficile, je crois qu'il y a, il y a quand même une culture du cyclisme qui est présente avec le, au même temps que les vélos en libre-service. Et donc, moi, je serais pas sûr qu'on pourrait attribuer la croissance de cyclistes aux vélos en libre-service. Mais ce serait idéal, ce serait bien si c'était le cas. Mais je ne suis pas convaincu.
Et l'autre aspect ou argument que le système de vélos en libre-service mène vers de meilleures infrastructures pour les vélos, par exemple, des pistes cyclables.
Oui, alors ça c'est une question très intéressante parce que si on regarde des systèmes comme Paris ou New York, qui ont quand même beaucoup plus de trajets par jour par vélo, je vais dire entre 5 et 7 ou quelque chose comme ça. Eux, ils ont bien installé des pistes cyclables avant de lancer leur système. Mais alors, est-ce que l'inverse marche aussi? Est-ce que quand on installe des vélos en libre-service, est-ce qu'après, les gens, les politiciens vont installer des pistes cyclables? Ben, si on regarde Luxembourg, il y a eu des petits changements, mais vraiment ça a été de la peinture sur le sol, mais pas des grands changements. Par contre, bon, là on commence à voir des changements sur le pont rouge, mais j'ai du mal à lier les deux. Voilà.
L'étude porte donc pas seulement sur le Luxembourg, mais aussi sur d'autres villes. Est-ce que le cas de Luxembourg-Ville présente des spécificités ou bien des problèmes spécifiques, par exemple liés à la topographie?
Alors oui, j'ai vu que surtout le rééquilibrage du vélo, il y a des villes où il rééquilibre très intensement les stations de train, et d'autres comme Vienne ou Luxembourg, où beaucoup du rééquilibrage, c'est simplement prendre les vélos et les redéposer en haut de la pente. Donc ici, c'est Kirchberg, Limpertsberg. Beaucoup des vélos sont déposés là-haut et on les retrouve à la gare, à Bonnevoie. C'est là où ils prennent les vélos, en bas de la pente.
Et est-ce que le Luxembourg propose aussi des solutions techniques intéressantes ou est-ce qu'on peut dire qu'il est pionnier dans un sens ou un autre?
Pour les vélos en libre-service? Non. Non. Je dirais même que la technologie que J.C. Deco a apportée au Luxembourg est inférieure à Paris, même si Paris a lancé 2 ans avant. Ils ont des vélos où on a une carte et il suffit de toucher la borne et le vélo se déclenche instantanément. Donc c'est quand même plus utilisable que le système où on a maintenant, où on passe à peu près 1 minute à entrer notre code, valider certaines choses, choisir le vélo, voir si le vélo est en bon état. Donc je dirais que ce système-là, c'était un copier-coller. Et je ne connais pas le système de sélection ou comment ils ont choisi une technologie, je dirais, un peu datée par rapport à ce qui était déjà présent. Je ne connais pas le côté politique qui a rendu ce résultat.
Si on regarde un peu en avant les perspectives de développement de tous ces systèmes, est-ce que ça ira plutôt en direction de systèmes comme celui de Deco, par exemple au niveau que c'est quand même encore assez aisément accessible si on compare par exemple au système de la ville d'Esch où il faut vraiment se présenter quelque part, oui. Etc.
Ben même le système. Donc, si on veut être membre à Luxembourg-Ville, il faut quand même envoyer une lettre. Si on veut être membre pour la journée ou la semaine, juste la semaine, pardon, là, c'est plutôt facile de le faire à la machine directe. Oui, je crois qu'à New York, je sais qu'on peut devenir membre à une station et la clé tombe et c'est fini. Ils ont votre carte de crédit et la clé et c'est parti. Donc, c'est un peu plus facile.
Et le développement futur va dans quelle direction?
Ben, on voit que faciliter l'utilisation, ça se vend bien, mais ce n'est pas toujours visible. Je veux dire, ce n'est pas toujours transparent. Je ne sais pas si les municipalités, avant de choisir la technologie, ont nécessairement bien regardé ce qu'ils allaient recevoir. Surtout pour la première génération de vélos en libre service, où ce n'était pas vraiment connu, on ne connaissait pas vraiment comment ça fonctionnait. Je crois que la deuxième fois, les gens feront peut-être un peu plus attention. Donc je dirais oui, ça va aller dans la direction où les systèmes soient plus utilisables, moins de barrières à la facilité, je veux dire.
Un des avantages des grandes firmes internationales, c'est que on pourrait imaginer d'avoir, par exemple, un abonnement transnational. Si je vais à Paris et que je possède déjà un abonnement ici au Luxembourg, que je pourrais l'utiliser là-bas aussi.
Tout à fait, c'est possible. En Amérique du Nord, il y a un système qui s'appelle Bicycle. Et c'est souvent géré par des organisations non lucratives, des ABSL, à but, ouais, sans...
Sans
but lucratif, voilà. Et là, ils ont un système où d'une ville à l'autre, vous pouvez utiliser, tu peux utiliser ta carte. Donc ça, c'est très, très commode. Mm-hmm. Mais bon, si on peut aller un peu en arrière, moi, je ne suis pas convaincu que les bénéfices des systèmes de vélo en libre service rapportent énormément comme bénéfice. Donc, on parle du futur, on aimerait augmenter la part des voyageurs qui vont travailler en vélo, la modal share, pardon. Mais je suis pas vraiment sûr que le vélo libre service va nous apporter ça, parce que on se retrouve avec ces, je veux dire, quand un système de vélo en libre service se déploie, c'est très politique, c'est très, on va voir le maire, on va voir le ministre du transport, mais après, qui va s'en servir? Et ça, c'est ça, on revient aux questions de équité sociale et de...
Mais justement, l'équité sociale, quand on regarde par exemple le système à Esch, qui est géré par une entreprise d'économie solidaire, oui. C'est quand même intéressant, non? Ça pourrait engendrer des postes de travail intéressants, etc.
Tout à fait. Tout à fait. Mais... Oui, ça c'est un aspect, on peut donner des postes intéressants aux gens, mais en fin de compte, je ne me demande pas si ça... L'attention des gens, on regarde les vélos en libre-service au lieu de faire attention à est-ce qu'on a des pistes cyclables. Et je crois que vraiment, c'est les pistes cyclables qu'on a besoin, et les vélos en libre-service, c'est beau, on dit que c'est vert, on dit que ça réduit la congestion, mais en fait, je crois que ça fait très peu. Et j'ai peur qu'en fait, les vélos en libre-service remplacent des actions plus efficaces.
Qui devraient en fait avoir...
Voilà, donc je comprends bien que ça fait des emplois importants, mais...
Mais ta conclusion, la conclusion de ta thèse est en fait assez radicale. Tu dis que le système est socialement injuste. Est-ce que tu pourrais expliquer cela?
Alors si on regarde qui se sert des VLS, ça va être typiquement des hommes.
En généralisant,
hein, c'est pas que les hommes, on est bien d'accord, mais ce sera, il y a plus de chances que ce soit un homme, plutôt un peu plus riche, un peu plus éduqué, et blanc. Donc c'est très bien, mais pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas faire un système où tout le monde peut en profiter? Et si on regarde à Copenhague ou d'autres pays qui ont des bonnes infrastructures cyclistes, toute la famille va en vélo au travail, à l'école. Et ici, ben voilà, c'est les mâles plutôt riches, plutôt blancs qui ont accès. Et donc, pour moi, fondamentalement, ça nous avance pas dans la direction où on veut aller.
Mais est-ce que ça n'est pas lié aussi au problème de stationnement des vélos privés? Ce n'est plus prévu dans l'architecture, surtout au Luxembourg, d'avoir des emplacements dans les résidences, par exemple, pour les vélos. Donc les gens au lieu d'acheter des vélos, préfèrent peut-être d'en
peut-être.
Louer.
Peut-être. Je sais que les gens à Paris ou à New York, ils disent ça. Mais bon, ils ont peut-être la place pour garer leur voiture devant leur maison. Donc, éventuellement, dans 20 ans, 40 ans, il faudra que notre utilisation de l'espace change. Je veux dire, la voiture, elle a déjà 100 ans, mais elle n'aura pas encore 100 ans. Et donc, d'ici là, il va falloir changer et donner plus de priorité au vélo.
Ouais. Donc, on va quand même garder le vélo, même si ce n'est peut-être pas sous la forme du système de...
Je crois que le vélo va avoir beaucoup plus de potentiel, le vélo privé, et qu'on a besoin de bâtir plus pour donner accès à de la bonne infrastructure à tout le monde, avec les vélos en libre-service. Pas avec les vélos... pas comme ce que nous donnent les vélos en libre-service.
Donc les vélos en libre-service, c'est peut-être plutôt une étape que la panacée. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci pour tes explications,
merci,
Cyril.
Renée.
Nous clôturons le Humanities Talk d'aujourd'hui avec à bicyclette d'Yves Montand et j'espère vous retrouver dans 2 semaines, same time, same radio station.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.